mondiale. CKUTFM 90.3.
It takes a good dose of courage and perseverance to get through a pandemic.
True, but it also takes a good dose of patience, resilience, confidence, optimism, humor, and love. Not to mention a dose of determination, endurance, empathy, motivation, hope, and ingenuity.
But above all, it takes a second dose of vaccine.
A message from the gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.
Écoutez le magazine Dignité Noire.
Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes le 3 mai 2021, je suis Magloire Mpébi avec vous jusqu'à 20h en remplacement de Mbaye Empêché. Toute l'équipe du magazine Dignité Noire est très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien tout en respectant scrupuleusement les mesures de protection telles que décidées par le gouvernement du Québec. Vous pouvez nous suivre sur les ondes sur 88.3 FM, mais aussi en direct sur la page Facebook d'Unité Noire, CKIA FM. Vous pouvez aussi nous écouter en balado sur www.ckiafm.org. Au menu ce soir, nous retrouverons en deuxième partie et en rediffusion Onde de culture avec Vianney, qui, il y a deux semaines, a interviewé la cinéaste, réalisatrice et productrice tchadienne Haché Amat Mustapha. Elle a été du 9 au 18 avril dernier membre du jury à la 37e édition du festival Vue d'Afrique qui s'est tenu en virtuel à Montréal. Au micro de Vianney Misumbi, Haché revient sur les difficultés que traverse l'industrie du cinéma en Afrique. Mais pour l'instant, je vous propose l'entrevue que j'ai eue avec le docteur Michel Aloni, pédiatre et spécialiste de santé publique. Il fait le point sur la situation de la pandémie de COVID-19 en Afrique. Michel Aloni, bonjour.
Bonjour Magloire Mpembi.
Michel Aloni, vous êtes médecin, pédiatre et spécialiste de santé publique. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus auprès de ceux qui nous suivent en ce moment?
En fait, je suis médecin, diplômé de l'Université de Lubumbashi, promotion 1994. J'ai obtenu ma spécialisation en pédiatrie à l'Université de Kinshasa en 2003 et j'ai fait deux maîtrises de santé publique à l'Université catholique de Louvain en santé et développement et à l'Université libre de Bruxelles en gestion des systèmes de santé pays de développement. Pour le moment, je prépare une thèse de doctorat en néphrologie pédiatrique, où je travaille essentiellement sur les complications rénales de la drépanocytose.
Michel Aloni, vous suivez de près la pandémie de la COVID-19 depuis son début. Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser le tableau de la situation en Afrique actuellement?
Alors, pour le moment, lorsqu'on regarde les données statistiques de cette pandémie dans le monde, on se rend compte qu'au niveau de l'Afrique, on a, l'Afrique semble être le continent le moins touché avec l'Océanie. Mais le problème, c'est vrai que on n'a pas eu suffisamment de malades admis dans les urgences comme on l'a vu sur les autres continents. Mais il faut aussi souligner qu'on n'a pas une idée réelle, donc chiffrée, de cette pandémie sur le continent africain compte tenu de certains problèmes que peut-être nous allons développer dans cette émission. Et donc, il est difficile de brosser. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont été le plus touchés. Les pays du Maghreb, essentiellement, associés à l'Égypte, et l'Afrique du Sud. Et on constatera que ce sont les pays qui testent aussi le plus et qui ont peut-être probablement des infrastructures hospitalières beaucoup plus développées que le reste de l'Afrique.
Et même en utilisant des données connexes ou des données intermédiaires, par exemple le nombre des enterrements dans les cimetières, est-ce qu'en Afrique on observe quand même une montée de décès qu'on pourrait attribuer à la pandémie, ou alors la dynamique des décès ou la dynamique de mort est restée sensiblement comparable aux années antérieures?
C'est une très bonne question. C'est vrai que la dynamique, il peut y avoir des données connexes. La première donnée connexe, lorsqu'on a difficile à avoir une image sur l'épidémie, c'est de voir un peu les incidences en termes d'hospitalisation, surtout au niveau des services de réanimation. Apparemment, à part quelques petites périodes où on a constaté une élévation d'admission due à la pandémie Covid, en gros, les médecins qui sont sur place disent qu'ils n'ont pas observé une ruée vers les soins intensifs. Par contre, cela dépend aussi de pays. Il faut tenir compte toujours en Afrique, ce n'est pas une évaluation globale qu'il faut avoir. Il faut voir pays par pays. Quand vous voyez un pays comme l'Afrique du Sud, ils ont été touchés comme de nombreux pays du reste du monde. On a vu par exemple que dans un pays comme l'Afrique du Sud, le nombre d'enterrements a beaucoup plus augmenté. On a vu une ruée, on a vu des hôpitaux qui ont été complètement en situation de sursaturation dans certaines régions. On a vu la même situation dans des pays comme l'Égypte. On a vu des situations similaires, mais à des degrés moindres, au niveau des pays du Maghreb. Un pays comme le Kenya aussi a observé une sursaturation. Ça, c'est le premier élément connexe qu'on peut avoir. Le deuxième élément, effectivement, c'est sur les enterrements. Là, on a un problème, c'est qu'on a pas les données chiffrées des enterrements dans nos pays africains. On ne peut pas dire combien de personnes ont été enterrées. Est-ce que comparé aux statistiques des années précédentes, est-ce qu'il y a eu une augmentation, une baisse des enterrements? Donc c'est extrêmement difficile. On a vu quelques études qui semblent avoir montré, notamment celle que je connais un peu mieux, celle des cliniques universitaires de Kinshasa, qui dit qu'il n'y a pas eu une incidence forte du Covid sur la mortalité, quoi. Mais tenant compte du fait que les populations n'ont pas accès toujours accès à l'hôpital, accès au centre de santé, il y a des gens qui décèdent à la maison, qui sont enterrés, et donc ces statistiques ne ressortent pas. Donc il est difficile de voir si, sur base des données connexes, on peut avoir des éléments qui montrent quoi. Le seul élément qu'on peut avoir qui semble être objectif, c'est ne pas avoir eu cette ruée vers les soins intensifs. Les hôpitaux n'ont pas été sursaturés dans de nombreux pays d'Afrique au sud du Sahara.
Vous avez parlé des pays qui sont les plus touchés, qui sont les plus testés, et en fait, on se rend compte que, en général, il s'agit des pays qui ont les meilleures infrastructures de soins sur le continent. Ça m'amène à poser une question. Est-ce que finalement, cette pandémie de COVID-19 n'a-t-elle pas affecté les gens aussi en fonction de niveau de vie ou de mode de vie? Je m'explique un peu. Le tableau que vous décrivez a tendance à dire finalement que plus les gens vivent en occidental, plus ils sont touchés par la pandémie apparemment.
Oui, c'est une très bonne question, hein. En effet, quand on regarde déjà en Afrique, on verra que les pays, entre guillemets, les plus avancés d'Afrique sont ceux qui ont été les plus touchés. Probablement lié à l'occidental, peut-être il faut voir le trafic aérien, les échanges commerciaux qu'ont ces pays avec le reste du monde. Quand vous prenez les pays du Maghreb, l'Égypte, vous prenez l'Afrique du Sud, c'est des pays qui ont un trafic aérien aussi comparable que de nombreux pays en Europe ou en Asie. Tandis que quand vous prenez les pays d'Afrique subsaharienne, le trafic aérien est beaucoup moins important. Donc, c'est-à-dire le flux d'échanges avec l'extérieur est réduit. Et en ce qui concerne le mode de vie, effectivement, ça semble quand même un élément qu'il faut relever, qui mérite des études. C'est que même par effet connexe, on essaie de voir que c'est pourtant, on a l'impression que c'est dans la classe aisée qu'on a eu le plus de cas de pandémie. Il est connu que le virus aimerait bien le sucre. C'est dans ces classes-là qu'on trouve une vie à la mode occidentale. Et donc, le risque, par exemple, des facteurs pouvant aggraver une infection à Covid, comme l'obésité, comme la malbouffe, ben c'est dans ces classes-là qu'on en trouve. Et il faut dire aussi que ces classes-là ont plus facile accès à l'hôpital. Donc, ils accèdent plus facilement à l'hôpital. Donc, du coup, ils sont plus faciles à diagnostiquer. Tandis que la masse populaire, qui est généralement dépourvue de moyens de se rendre à l'hôpital, ben, celle-là, elle reste à la cité. Et donc, on n'a pas une vue claire. Et ça donne l'impression que, effectivement, ça touche les classes aisées, mais on n'a pas une vue claire. Et si on veut voir, on veut comparer à d'autres pays qui se ressemblent un peu au point de vue sociopolitique à l'Afrique, vous prenez le cas du Brésil, et bien là, vous verrez que au niveau du Brésil, ça touche toutes les classes, hein, y compris les classes les plus populaires, même au fin fond de l'Amazonie. Donc, probablement qu'il y a des éléments qui échappent encore en Afrique et qui donneraient une fausse impression d'avoir un ciblage sur des classes beaucoup plus aisées. Moi, je pense que ces classes sont plus faciles à accéder à l'hôpital, ils ont les moyens de se faire dépister. Et donc, c'est dans ces classes-là qu'on trouvera un peu plus de cas, entre guillemets.
C'est vrai que quand on considère, par exemple, la situation d'un pays comme le Congo, que vous et moi connaissons très bien, quand vous regardez la dynamique de l'épidémie à Kinshasa, il y a des zones de Kinshasa qui semblaient être les plus touchées. Et en fait, c'est des zones qui se trouvaient autour de la Gombe. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des quartiers très aisés.
Exactement, c'est des quartiers très aisés. C'est des gens qui voyagent beaucoup aussi. C'est dans ces zones-là qu'on trouve des gens qui ont des possibilités de se rendre dans d'autres pays, en Afrique du Sud, en Europe. Et vous remarquerez que d'ailleurs qu'à Kinshasa, l'épidémie est rentrée par des gens qui revenaient d'Europe et généralement qui logeaient au niveau de la Gombe. La première traçabilité faite par les équipes de l'INRB ont ciblé la commune de la Gombe. Donc, il est possible qu'effectivement, il y ait ce flux, cet échange, même dans nos pays qui vivent dans des situations assez difficiles, eh bien, c'est peut-être dans les classes aisées où il y a la possibilité d'entrer en contact avec d'autres populations grâce au voyage, qu'on puisse trouver un peu plus de cas. Donc ça, c'est possible. Mais dans la population générale, parce que lorsque vous interrogez les gens de façon indirecte, on sent que les gens ont eu affaire du Covid, mais ils ont mis ça sur le compte, par exemple, d'autres pathologies. Un paludisme, j'ai eu un peu de fièvre, j'ai eu un peu de ceci, j'ai toussé. Mais bon, ils n'ont pas été dans le centre de santé parce qu'ils ont eu peur. Et surtout que beaucoup de gens, l'automédication, je pense que c'est pas vous que je vais apprendre, l'automédication dans nos milieux est extrêmement poussée, ce qui fait que de nombreux, 90% de la population ne se rend jamais à l'hôpital. Généralement, dans les hôpitaux, nous recevons d'ailleurs les cas désespérés. Les gens viennent en dernière minute.
Donc, globalement, à l'heure où nous parlons, il y a un certain consensus pour dire que l'Afrique, généralement, s'en sort un peu mieux. Et en résumé, vous pourriez dire qu'est-ce qui peut expliquer cette performance, à votre avis, jusqu'à ce que les choses soient un peu plus claires?
Oui, c'est vrai que qu'est-ce qui peut expliquer cette performance? Parce que d'abord, on pensait que ça aurait été l'hécatombe, l'apocalypse. En tout cas, même l'OMS prédisait l'apocalypse en Afrique. Donc, je pense qu'il y a peut-être un premier facteur. D'abord, la jeunesse de la population. Pour la première souche qui a frappé le monde, la souche chinoise, même dans les pays occidentaux, on a constaté que c'est des personnes généralement âgées de plus de 65 ans qui étaient les plus affectées. Quand vous regardez la pyramide d'âge dans les pays d'Afrique et les pays occidentaux, c'est très différent. Vous verrez qu'en Afrique, il y a énormément de jeunes et très peu. La couche qui a plus de 65 ans d'âge ne représente pas plus de 5% de la population. Donc, du coup, l'impact sera beaucoup moins. Tandis qu'en Europe, vous avez ceux qui ont plus de 65% représentent environ 20 à 25% de la population. Donc, du coup, on ressent plus facilement cet impact dans les pays qui ont une structure d'âge avec des personnes âgées beaucoup plus représentatives dans la pyramide. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui peut aussi expliquer que l'Afrique soit plus ou moins épargnée, à part ce problème de jeunesse de la population, il pourrait y avoir des facteurs génétiques qui pourraient peut-être expliquer une différence avec les autres continents. Mais là, du coup, on n'est pas très poussé non plus parce qu'on va nous retoquer qu'au Brésil, il y a des afro-descendants, aux États-Unis, il y a des afro-descendants, en Caraïbes, vous avez des afro-descendants, et même en Europe, vous avez des afro-descendants qui ont été très impactés. Il y a eu beaucoup de cas dans les populations africaines. Oui, beaucoup d'Africains qui vivent en Europe ont été touchés par le virus. La troisième hypothèse, c'est aussi la faible circulation des populations. Généralement, les moyens de communication sont extrêmement faibles en Afrique, et donc les gens se déplacent beaucoup moins qu'en Europe. Ici, où vous êtes à Bruxelles pour aller à Paris, il suffit de prendre votre train, vous êtes à Paris en 1h20. Alors que vous êtes à Kinshasa pour vous rendre à Kisangani ou à quoi, si vous ne prenez pas l'avion, eh ben, vous risquez de faire un mois sur la route parce que déjà l'état de route n'étant pas toujours très, 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 très bon. Donc, ça peut expliquer. Donc, les gens sont restés beaucoup plus sédentaires que ce qu'on voit en Europe où il y a un brassage de population et une très, très, très forte circulation. La quatrième chose, c'est peut-être le faible testing aussi. Est-ce qu'on a réellement testé en Afrique? Et on n'a peut-être pas eu beaucoup de formes graves, mais rien ne dit qu'on n'a pas eu de formes légères ou de formes modérées en grande quantité, notamment chez les jeunes. Vous savez, même en Europe, les statistiques ne sont pas toujours fiables. On vous dit que lorsqu'on vous déclarez 10 000 cas, généralement, il faut faire x10. C'est-à-dire que dans la population, lorsque vous détectez 10 000 personnes, eh bien, c'est probablement qu'il y a 10 fois plus de personnes touchées. Et vous avez des pays comme la Belgique qui est capable de faire 40 000 tests par jour. Mais vous avez un pays comme ce que je vois en RDC, où on fait au maximum 500 tests par jour. Donc, du coup, celui qui teste plus découvre plus, celui qui teste moins trouve moins. Et moi, je reste convaincu que probablement des formes légères, des formes modérées sont passées sous le radar, donc donnant cette impression. Mais les formes graves, effectivement, il y en a eu, mais comparé au continent européen, ça n'a pas été l'hécatombe annoncée, donc l'Afrique s'en est sortie plus ou moins bien, quoi.
Globalement, en Afrique, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour combattre la pandémie ou l'épidémie de COVID-19?
Bon, il faut dire que l'Afrique a quand même une certaine expérience en matière de gestion des épidémies. Je pense que toutes les épidémies que nous avons eues, Ebola, fièvre jaune, tout ça, ça a pu aguerrir quand même ceux qui sont dans les comités de riposte. Et généralement, les premières stratégies ont été, je pense que l'Afrique a très bien réagi, contrairement au continent européen, que je connais un peu mieux, en fermant les frontières. Dès qu'il y avait eu des premiers cas, l'Afrique a vite fermé les frontières. On a fermé les frontières. Et je prends l'exemple de Kinshasa. Vous allez voir que dès qu'on a découvert un cluster à la Gombe, eh bien, on a isolé cette commune. Donc, ça a été une très bonne stratégie. On n'a pas permis aux populations d'aller se mélanger à la Gombe, ce qui aurait peut-être eu un impact extrêmement sévère sur la population. Donc, du coup, on a essayé de bloquer la circulation des populations. Les circulations entre provinces, entre communes ont été suspendues. Voilà, ça a été des mesures préventives assez rudimentaires, mais très efficaces. Et puis, on a essayé de sensibiliser la population à porter le masque, à faire du lavage de mains, ce qui n'est pas non plus facile, parce que déjà, obtenir vous savez, l'eau courante, c'est pas dans tous les coins d'Afrique qu'on a.
Et oui, le port du masque. En Afrique, déjà, avec le niveau de vie, déjà l'eau courante, on n'en a pas acheté les masques.
On n'en a pas. Le masque, ça coûte pas cher. Les gens devaient se fabriquer le masque. Et même quand vous avez le masque, c'est le climat qui vous agresse parce que respirer sous 40 degrés Celsius, ce n'est pas du tout évident. Ça, on l'a vu même en Europe en été. C'est pas facile. Mais je pense que les mesures de restriction de la circulation de la population ont donné de bons résultats en Afrique, ce que l'Europe n'avait pas compris dès le départ, parce qu'on a laissé les populations circuler, et du coup on a permis d'entretenir le virus.
Leur avance, cet entretien très intéressant, je ne sais pas si on pourra aborder tous les aspects qu'on a prévus. Il y a un pays en Afrique qui a essayé de faire cavalier seul, c'est le Madagascar, avec son produit à base de plantes médicinales. Comment est-ce que vous appréciez ou vous appréciez cette expérience en tant qu'expert en santé publique?
Je pense, le Madagascar, c'est un cas assez à part. Hein. J'ai eu un contact avec une malgache, justement, qui est très impliquée aussi en santé publique, mais dans le domaine de la drépanocytose. Je pense qu'à Madagascar, il y a eu deux camps. Il y a eu le camp politique avec le président de la République qui a fait la promotion de l'Artemisia, qui l'a imposé, tandis qu'il y a eu l'Académie de médecine qui était plus ou moins demandé qu'on soit beaucoup plus prudent, que les gens puissent observer les mesures de distanciation sociale, d'hygiène pour pouvoir prévenir. N'empêche que le Madagascar a eu une deuxième vague extrêmement sévère, dont on a très peu parlé. Et là, je viens d'apprendre il y a deux jours que Madagascar a finalement accepté de s'inscrire au programme COVAX pour pouvoir utiliser comme la vaccination comme une troisième stratégie de lutte contre la maladie. C'est vrai que c'est une bonne expérience de tenter avec les plantes médicinales. Je pense que la pharmacopée traditionnelle n'est pas à négliger. Bien au contraire, il faut l'étudier. Et nous militons toujours pour que, au niveau des universités, il y ait des centres de recherche sur la pharmacopée traditionnelle qui doit être faite avec des essais randomisés, avec une méthodologie scientifique rigoureuse. Je pense que c'est ce qui a manqué à Madagascar. On a eu ces produits, on a lancé, mais personne n'a eu à faire des tests là-dessus pour vérifier si réellement ce produit agissait sur le Covid. Donc c'est un peu ça. Pourtant, on encourage ce genre de recherche, c'est une très bonne initiative, mais il y a des lois en matière scientifique. C'est vous trouvez un produit, vous passez par la phase des essais cliniques, et là vous vérifiez si le produit est bon ou n'est mauvais. Il peut avoir, c'est peut-être qu'il agit sur la fièvre, peut-être qu'il agit sur l'inflammation, mais on ne saura jamais le dire parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus. C'est une très bonne initiative qu'on devrait encourager. Mais à côté, il faut toujours associer toutes les stratégies possibles pour pouvoir lutter contre une pandémie. Hein. Le problème de Madagascar, c'est qu'ils ont axé sur une seule stratégie, le produit qu'ils ont développé, en oubliant certains volets qui étaient extrêmement importants pour lutter contre la pandémie. Et ce qui a fait qu'il y a eu énormément. Et même là aussi, il y a aussi un problème de chiffres. Est-ce que les chiffres sont réels? Il y a des dossiers politiques qu'on ne peut pas évoquer ici. Et peut-être que ça pourra faire l'objet d'un débat prochainement si on peut avoir aussi un malgache en ligne.
Vous m'attendez une perche avec l'initiative COVAX. Le vaccin qui est envoyé en Afrique dans le cadre de cette initiative, quand on prend par exemple le cas de la RDC, c'est le vaccin d'AstraZeneca. Or, ce vaccin pose problème. Il y a certains pays en Occident qui l'ont carrément interdit. Son usage a été à un certain moment arrêté et il s'avère aujourd'hui, c'est confirmé, que ce vaccin est susceptible d'entraîner des cas de thrombose. Est-ce que envoyer ce vaccin qui est controversé, l'envoyer en Afrique où on ne fabrique pas de vaccin et où les gens, parce que la maladie reste cantonnée dans certaines sphères, doutent de son existence même, est-ce que ce n'est pas prendre le risque justement que ce vaccin ne soit pas accepté par la population? Est-ce que ce n'est pas une erreur de commencer cette campagne de vaccination avec un vaccin qui, justement, pose problème? On a appris, par exemple, il y a quelques jours, qu'il y a une Québécoise qui est décédée suite à cette vaccination d'AstraZeneca.
Oui, tout à fait. Je pense que lorsqu'on a lancé l'initiative COVAX, on n'avait pas encore de recul suffisant sur ce vaccin AstraZeneca. Donc, du coup, c'était étant donné qu'on était face à une pandémie, dans l'urgence, l'OMS et l'Union africaine ont signé un accord pour pouvoir permettre aux pays africains d'accéder à la vaccination. Donc, le vaccin qui avait été choisi, c'était AstraZeneca. Bon, il se fait que ce vaccin, d'abord, a posé un premier problème en Afrique. C'est l'Afrique du Sud qui a démontré que ce vaccin n'était pas si efficace sur la souche sud-africaine. Ça, c'est le premier problème. Donc, le premier problème a commencé par son inefficacité sur la souche sud-africaine. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que cette souche sud-africaine touche quel pays d'Afrique. Quels sont les autres pays africains qui ont été touchés par la souche sud-africaine? Par exemple, est-ce que la deuxième vague qui a eu lieu en RDC est-elle due à cette souche? On ne sait pas. Alors, en ce qui concerne les complications, c'est vrai que AstraZeneca a eu la malchance d'avoir eu les médias qui ont un peu mieux suivi ces problèmes. Les problèmes d'AstraZeneca ont été très vite médiatisés, notamment les effets secondaires, ce qui a entraîné à un moment donné une vague de suspension de la vaccination. Pour le moment, il n'y a que 3 pays au monde qui ont arrêté, c'est le Danemark, la Finlande et le Cameroun. Tous les autres pays ont repris. La Belgique, par exemple, n'avait jamais arrêté. Je pense que, la maladie elle-même donne plus de thrombose que le vaccin. Parce que la plupart des gens qui meurent du coronavirus meurent de thrombose. Ça, c'est connu. Ils font des embolies pulmonaires. C'est ça qui les tue. Bon, le vaccin aussi donne quelques cas de thrombose. Il n'est pas le seul. On a relevé des thromboses avec Pfizer, on a relevé des thromboses avec Moderna, Johnson & Johnson. Et bon, c'est un problème qu'il faut relever. Les effets secondaires, ça existe. Mais là, il faut voir le bénéfice-risque. Faut-il laisser une population non vaccinée alors qu'on a un vaccin, mais qui peut avoir des effets secondaires? Ça, c'est la grande question qui se pose au niveau éthique. On ne peut pas. C'est comme si vous vous retrouvez en brousse avec un enfant qui avait de la fièvre, vous avez quand même un antibiotique qui peut avoir des effets secondaires. Vous vous dites, bon, si je donne, l'enfant peut avoir des effets secondaires, mais si vous ne donnez pas, l'enfant peut mourir. Donc, on est dans cette situation-là. Donc, le bénéfice-risque plaide pour le moment en faveur de l'administration du vaccin AstraZeneca, mais je pense que dans les pays occidentaux, on a reciblé sur des personnes âgées, parce qu'en fait, ces thromboses, on les a constatées chez des personnes très jeunes. Et bizarrement, du sexe féminin. Et vous relevez le cas de la Canadienne qui est décédée de thrombose. Donc, du coup, ce vaccin n'est plus donné au moins de 65 ans. Je pense de cette problématique. Parce qu'il n'est pas possible qu'un continent avec 52 pays ne puisse pas avoir la possibilité de fabriquer ses propres vaccins. Ça pose un problème. Et donc, comme on dit, celui qui n'a pas les moyens, il reçoit ce qu'on peut lui donner. Hein. On ne peut pas faire autrement. Si c'est le seul vaccin qui est disponible et que vous n'avez pas les possibilités, ben on vous l'offre. Donc, voilà, on est dans cette situation. À qui, qu'est-ce qu'il faut condamner? D'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons plus. Quelle est la place de la recherche scientifique en Afrique, ou de quelques pays? Nul, rien. Combien de centres de recherche de grande envergure vous connaissez? On n'investit pas dans la recherche scientifique. Or, nous sommes un continent qui sommes frappés suffisamment par des pandémies. Et donc, c'est des capacités qu'on devrait développer en termes de ressources matérielles, de ressources humaines pour avoir nos propres vaccins. Donc, là, on reçoit un vaccin qui est là. Bon, dans beaucoup de pays africains, il passe très difficilement. Je crois que même en RDC, il passe très difficilement. J'ai vu les chiffres hier. Je crois que sur 80 millions d'habitants, il n'y a que 1600 qui se sont fait vacciner. Donc, vous comprenez qu'il y a une méfiance vis-à-vis de ce vaccin qui n'est pas toujours justifié, parce que là aussi, peut-être que les scientifiques ne jouent pas suffisamment leur rôle. On a laissé plutôt les médias et certaines personnes, généralement dans le rang des antivax, diffuser leur message. Mais les scientifiques doivent expliquer. Si vous prenez 26 millions de personnes, vous donnez du paracétamol, vous aurez 100 personnes qui auront des problèmes hépatiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser le paracétamol. On est un peu dans cette situation. L'Angleterre a vacciné 26 millions d'habitants. Il y a eu une centaine de cas de thrombose, il y a eu 38 décès. Bon, mais il y a 26 millions de personnes qui sont quoi? Et pour ajouter, je m'excuse de prendre un peu plus de temps, il y a une étude qui vient de sortir, qui est sortie hier ou avant-hier aux États-Unis, qui démontre que l'arrêt de la vaccination AstraZeneca a eu des effets beaucoup plus néfastes sur la pandémie, parce que ça a permis au virus de circuler. Des gens qui auraient pu être vaccinés ont continué à diffuser le virus dans la population. Ça, c'est dans les pays occidentaux qu'ils ont constaté cela. Donc, du coup, voilà, AstraZeneca, ça mettrait un débat à lui seul. Mais il n'est pas le seul. Peut-être qu'on a plus médiatisé AstraZeneca que d'autres. Il y a eu des effets aussi avec Pfizer. Au départ, d'ailleurs, c'est la Norvège qui avait signalé quelques cas de décès après la vaccination à Pfizer.
Michel Aloni.
Voilà, fabriquons nos propres vaccins, ayons nos propres recherches. Oui.
Le temps il file. Juste vous demander en 30 secondes de dire un mot de la fin à ceux qui, sur le continent ou ailleurs en Afrique parmi les afro-descendants, doutent de cette pandémie de COVID-19, en tant que médecin, en tant qu'originaire d'Afrique et en tant qu'expert en santé publique. En 30 secondes.
Je crois que ceux qui doutent, la maladie existe. C'est une virose. La maladie a touché certaines personnes que nous connaissons. Et je pense que même dans les populations, ils connaissent des gens qui sont décédés de coronavirus. Elle existe. Il faut prendre ces mesures pour pouvoir lutter contre la maladie. S'il y a des possibilités d'avoir un vaccin, faites-le. Parce que c'est un virus qui est extrêmement vicieux. Regardez ce qui se passe en Inde. Regardez ce qui se passe au Brésil. Nul n'est à l'abri. L'Inde avait réussi à contrôler sa pandémie au mois de janvier et février. Et voilà. Aujourd'hui, l'Inde est au bord est pratiquement au bord du gouffre. Quoi.
Michel Aloni, merci.
Donc, la maladie existe.
Michel Aloni, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Dignité Noire sur CKIA FM. Merci, à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci.
Cette semaine, dans Onde de Culture, nous vous proposons la rediffusion de l'entretien qu'a accordé à Vianney Missoumbi la cinéaste tchadienne Haché Amat Mustapha sur les difficultés de l'industrie cinématographique en Afrique. Onde de Culture, c'est tout de suite.
Assez tout, Sophie Mandjarabi. Bonjour Mbaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois de plus pour ce énième numéro de Onde de Culture. Aujourd'hui, nous nous rendons du côté de l'Afrique centrale. Nous sommes au Tchad, capitale N'Djamena, où nous allons accueillir la réalisatrice tchadienne Aché Hamad Mustapha, qui est déjà en ligne avec nous. Aché, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Okay. Alors, je crois que j'ai presque tout dit. Réalisatrice, productrice aussi, c'est ça?
Oui.
Ok. Et combien de films à ton actif, Aché?
Alors, pour mes films à moi, c'est 2 courts-métrages. Et sinon, j'ai eu à produire des courts-métrages. Donc, il y en a 2. Voilà.
Allez, tu es notre invité aujourd'hui parce que tu participes au Festival Vue d'Afrique. Comme membre du jury, peux-tu nous en parler un tout petit peu? C'est quoi le rôle de Aché au Festival Vue d'Afrique?
Alors d'abord, tout d'abord, moi, je voudrais remercier tous les organisateurs, d'abord vous aussi, hein, de m'avoir donné la parole aujourd'hui à travers vos ondes, et surtout remercier aussi le Festival Vue d'Afrique qui m'a fait en tout cas cet honneur de faire partie des membres du jury de la section web, série télé, animation. Bah, les rôles, Vianney, c'est aussi simple, c'est de visionner les films et de pouvoir apporter notre contribution en les voyant, surtout en discutant en tant que membre du jury, d'avoir des discussions autour de ces films, de pouvoir choisir le film ou les films qui vont avoir des prix. Notamment, dans notre section, il y a des prix aussi, donc voilà. Donc c'est un peu ça notre rôle, quoi. Donc un bonheur depuis quelques semaines, enfin quelques jours avec les autres membres que je salue au passage, en tout cas Félix et le professeur Sawadogo. On a eu à travailler sur différents films, enfin une vingtaine de films d'une dizaine de pays d'Afrique, hein, quand même, d'Europe et des Caraïbes.
Ok, donc une dizaine de films à visionner pendant...
Une vingtaine de films à visionner. De plus de 10 pays, en fait.
Ouais, 10 pays, et puis c'est parce que ça a commencé le 9 avril, et ça se termine le 18. Nous sommes aujourd'hui le 18, c'est la fin du festival, pratiquement. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pu travailler à distance? Parce que je rappelle quand même aux auditeurs que le festival cette année, une fois de plus, est... virtuel, pandémie oblige, on n'y peut rien là en ce moment. Comment vous avez travaillé avec les autres membres du jury et avec les organisateurs?
Alors c'est exactement, c'est une ambiance quand même, comme tu viens de le dire Vianney, c'est une ambiance où aujourd'hui avec la Covid il faut se réinventer. Donc justement cette édition virtuelle nous a pas permis physiquement d'être ensemble, mais ça n'a pas pour autant empêcher le fait que les choses puissent se tenir, que les échanges autour des films puissent se faire. C'est de la même manière dont je discute avec toi. On a eu à discuter plusieurs fois avec les membres, avec les organisateurs. On a vu des films indépendamment de notre côté. On les a vus ensemble. Et voilà, donc c'est vrai que le côté un peu physique est absent. Mais virtuellement, on a été connectés, comme on dit.
Et alors, vous avez reçu des organisateurs les vingtaines de films et vous les donnez à partir de chez vous. Là, je précise quand même que tu te trouves en ce moment à Paris.
À Paris.
À N'Djamena. Oui. Je vais parler de toi comme origine du Tchad, mais tu te retrouves à Paris et non pas à N'Djamena. Donc, tu reçois les films, tu les visionnes et puis tu discutes avec les autres membres du jury.
Exactement.
Voilà, de manière virtuelle, bien sûr, avec les applications telles que Zoom ou encore WhatsApp. C'est ça?
Exactement, on discute. Voilà, c'est ça. Et ouais, avec une très, très belle organisation que je salue au passage, et je salue vraiment le comité d'organisation, notamment l'équipe de la section de programmation, parce que franchement, il faut être très, très honnête, ça a été très, très bien organisé. Et du coup, c'est vrai qu'on a été dans plusieurs festivals et tout, des fois, c'est pas évident. Mais là, franchement, on n'a pas du tout eu de difficultés. Ça s'est très, très bien passé. Et je pense aussi que c'est aussi là l'avantage aussi d'être dans du virtuel aussi, des fois. Enfin, pour la petite histoire, j'ai aussi eu à avoir mon propre festival. Donc, l'année dernière, on l'a fait aussi virtuellement. Et j'avoue que ça dépend de où on se trouve. Je ne sais pas si ça aurait aisé pour moi de visionner tous les films si j'étais physiquement à N'Djamena, parce que la connexion Internet, quand même, coûte excessivement cher. Ce n'est pas évident. Mais là, j'ai quand même eu beaucoup de chance.
Alors justement, en parlant de N'Djamena et de ses films, tu es réalisatrice de films courts-métrages. Est-ce que c'est important de préciser là-dessus? C'est plutôt dans le court-métrage et non pas dans le long-métrage?
Alors, quand les longs métrages viendront, enfin, réalisatrice dans l'ensemble, mais parler des cours, justement, c'est là où j'ai commencé. En fait, c'est un peu le baptême de feu de tout le monde. Il faut commencer par les cours. J'ai eu la chance d'en faire deux. Je travaille sur des projets de séries télé en ce moment, ici à Paris, avec mes collaborateurs, et aussi sur mon premier long métrage. J'en parlerai peut-être pour une prochaine fois dans d'autres occasions. Mais pour les projets des cours, c'est important. Enfin, comme je le disais, c'est le baptême de feu. Mais c'est aussi ça qui m'a motivée, en fait, à moi-même vouloir produire d'autres jeunes sur ce format-là. Parce que justement, c'est comme ça qu'on s'essaie, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se fait remarquer aussi.
Oui, mais Haché, dis-moi un peu, c'est quoi la différence? Moi, je vais te poser une question comme novice, là. C'est quoi la différence lorsqu'on parle de court-métrage et long-métrage? C'est quoi la différence?
C'est juste la durée. C'est tout de suite sur la durée. Mais c'est tout de suite sur la durée, déjà, pour commencer. Déjà, c'est sur la durée. Déjà, c'est sur la durée qu'il faut voir. Tu es sur du moins de 30 minutes. Quand nous, on fait, par exemple, à travers les différents festivals, c'est du moins de 30 minutes. Avec 4 minutes, tu peux faire quelque chose. Avec 3 minutes, tu peux faire quelque chose. 7, 12, 13, 15, 24. Mais tu es sur du format court, en fait, qui est complètement différent d'un long métrage.
Okay, donc, le maximum pour un court métrage, c'est 30 minutes, c'est ça?
En tout cas, pour nous, pour moi, c'est 30.
C'est 30 minutes, ok. Alors, il y a eu deux courts métrages réalisés et produits par toi. Ok, parle-nous un peu de ce premier court métrage.
Alors, réalisé par moi, produit par mon producteur à l'époque. Et justement, Entre quatre murs, c'est une histoire on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Entre quatre murs, c'est l'histoire d'une jeune fille tchadienne. Justement, ce sont des thématiques qui me touchent énormément. C'était ma propre histoire. Moi, je suis née, j'ai grandi au Tchad. Je suis venue en France pour m'y installer, on va dire, à l'âge de 35 ans, ce qui est complètement, ce qui montre que voilà, je suis née, j'ai grandi au Tchad. Donc, les réalités tchadiennes, je les connais, je les maîtrise. Et donc, il fallait pour moi, en fait, raconter l'histoire des jeunes filles de mon pays, de moi-même, murées entre quatre murs, ne pas sortir, parce que voilà, il y avait plusieurs raisons.
Entre quatre murs, excuse-moi, Haché, mais entre quatre murs, c'est une histoire vécue, c'est ton histoire à toi, c'est autobiographique, ou c'est l'histoire de notre fille ou des autres filles?
C'est un peu mon histoire, mais bon, je dirais pas que tout est complètement mon histoire. Il y a beaucoup de fiction aussi un peu dedans, mais ça, il y a des éléments. Je me rappelle ma grand-mère, paix à son âme, quand elle a vu pour la première fois mon court-métrage passer à la télévision nationale tchadienne, elle dit mais cette femme-là, elle parle, on dirait moi. Donc en arabe tchadien, c'est tu es en train de sortir tout mon secret, tu me fais la honte là, tu parles de moi. Donc voilà, parce qu'elle me grondait. Je me rappelle à l'époque, quand je faisais la vaisselle par exemple, la vaisselle, c'est pas ici avec ce système là où il faut laver avec l'évier et tout ça, non, pas du tout. C'est vraiment on s'assoit, on a deux bassines, de l'eau propre, de l'eau sale, tu sais, comme on le faisait.
On connaît.
Et le problème c'est que je faisais ça, mais je n'aimais pas sortir pour verser l'eau à l'extérieur. Ça, parce que voilà, on était des jeunes adolescentes, il fallait pas que les garçons d'à côté nous regardent et tout ça. Donc, du coup, je voulais pas. Et elle fait, tu vas aller verser. Celui qui veut pas t'épouser, là, il n'a qu'à ne pas venir t'épouser. Donc, elle me forçait à. Donc, voilà, c'est des histoires comme ça. Et donc, je ramenais un peu des phrases de nos mamans, de nos grand-mères qui ont été quand même des inspirations, en tout cas pour nous sur le continent. Mais en même temps, c'est vraiment ce besoin de la jeune fille de pouvoir s'exprimer, d'avoir une vie comme toutes les autres. Donc, je mettais un peu en discussion deux jeunes filles qui sont du même pays, mais qui ont des réalités différentes entre une qui a la chance d'étudier, de sortir, de vivre, de voyager, contre une autre qui n'a pas du tout cette chance-là. Et j'essayais de montrer un peu les réalités de ce que ça fait. Parce qu'après, la participation à l'expression des jeunes filles, sont quand même des épineuses questions aujourd'hui dans nos sociétés.
Alors après avoir diffusé ce court-métrage, Entre quatre murs à N'Djamena, quelle était la réaction des cinéphiles, en fait, de ceux qui ont regardé le film? Comment ils ont réagi lorsque on regarde Entre quatre murs?
Ils étaient contents, ils étaient fiers, et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le film qui touche le plus les filles tchadiennes, parce qu'elles se retrouvent dans ce film-là. Et justement, même la comédienne, l'actrice principale du film, Maria Moinou, que je salue au passage, jusqu'à aujourd'hui, quand elle parle, elle fait souvent référence à ce. Je vous dis, ça parle à la jeunesse tchadienne, ça parle à la fille tchadienne, ne pas sortir, ne pas pouvoir être libre, se cacher, hein, mettre ce petit turban là pour sortir les réalités et les vécus du quotidien tchadien. Voilà.
Okay. Justement, vécu, réalité du côté du Tchad, Haché, qui est notre invité, je rappelle, pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours. Nous l'avons vraiment, nous avons une chance de l'avoir aujourd'hui pour nous parler aussi du cinéma tchadien. C'est quoi le cinéma tchadien? Toi qui es réalisatrice, productrice et qui travaille au Tchad en ce moment, pas pour d'autres projets bien sûr, mais c'est quoi le cinéma tchadien pour ceux qui ne connaissent pas?
Bah, le cinéma tchadien, c'est un cinéma qui a quand même, malgré toutes les difficultés et tous les défis, fait écho à travers des grands noms de notre cinéma, que ce soit Haroun, Cello, etc. Et aussi, le cinéma tchadien, c'est une nouvelle génération, des jeunes qui, comme moi ou comme d'autres, ont décidé en tout cas de prendre la relève, comme on dit tout simplement, et de montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire. Il y a, je dirais, une quinzaine, une vingtaine d'années, et puis le cinéma tchadien aussi, je rajouterais, c'est aussi Zara Yacoub, qui est aussi connue hein, dans le milieu de vue d'Afrique. Et voilà, on a nos précurseurs, on a des anciens, des aînés qui ont fait un travail, mais il fallait aussi que les jeunes, notamment les femmes, puissent aussi s'affirmer et se démarquer. Et justement, tout le combat, il est là. Il est là parce que moi, sur ma propre expérience, mes deux premiers courts-métrages, c'était pas ça. C'était pas ça dans le simple sens qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'a pas de politique culturelle structurée, on n'a pas de politique de notre cinéma, de notre septième art. Il n'y a pas de statut d'artiste, il n'y a pas de fonds d'aide pour les cinéastes. Donc du coup, c'est difficile de le faire. C'est difficile de réaliser. Comment voulez-vous qu'on parle de notre pays, qu'on parle de cinématographie, quand il n'y a pas de fonds d'aide, quand il n'y a pas d'appui? Et donc c'est difficile. Et au-delà de cela, c'est même ces métiers qui font le cinéma même, qui ne sont pas forcément valorisés. Je prendrai à titre d'exemple le métier de comédien et de comédienne. Et en 2018, j'ai lancé mon premier festival de court-métrage, qui est le FEDKUM.
Au
Tchad, justement, qui a sa troisième édition. Et ben justement, nous aussi, on a fait notre édition virtuelle l'année dernière, ici, depuis Paris. Et les deux premières éditions se sont faites physiquement. Et alhamdoulilah, comme on dit, je suis très satisfaite des résultats. Mais dès la première édition, on a eu l'honneur d'avoir des grands noms, comme Mama Keita de la Guinée ou Mouna Ndiaye du Burkina. Et Mouna a fait un atelier de formation avec des jeunes comédiennes tchadiennes. Et vous voyez, en fait, les résultats étaient tout simplement que beaucoup avaient cette envie-là, cet acharnement de réussir, de faire de ce métier non seulement une carrière, mais aussi de vivre de ça. Mais c'est difficile parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Vous jouez par exemple le rôle d'une prostituée dans un film, on pense que vous l'êtes réellement. Donc il y a des sérieux problèmes derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Et donc surtout sur la partie de la composante féminine, il y a un réel travail à faire. Le métier de cinéma, le cinéma en lui-même, parlant cinéma, pour revenir encore plus à votre question, en 2019, on a eu à travailler avec la FEPACI, on a eu l'honneur d'avoir le représentant de la FEPACI. C'est la Fédération des cinéastes africains, représentée à la tête par Cheikh Omar Sissoko, qui nous a fait en tout cas l'honneur de venir à notre deuxième édition. Et il y a un des membres qui est aussi tchadien, qui est Cyril Danina. Et il y a eu, à travers ces festivals, je me suis donné pour objectif aussi de faire un atelier parallèle de réflexion qui permettait de réfléchir sur des axes stratégiques de l'élaboration d'une politique du cinéma. En faisant quoi? En mettant autour de la table différents acteurs, donc des partenaires, que ce soit des partenaires techniques et financiers, des partenaires, enfin des frères et amis des autres pays, donc la Tunisie, le Sénégal, dont le directeur du cinéma sénégalais, parce que eux, quand vous voyez, ils ont plus de 3 milliards, j'espère que je donne les bons chiffres, parce qu'ils sont passés, je pense, de 1 à 3 milliards en termes de fonds d'aide pour le cinéma. Et tous ces acteurs-là et ces experts-là étaient autour d'une table au Tchad, qui était une première dans l'histoire du cinéma tchadien, pour parler et réfléchir autour de comment on pouvait développer le cinéma en prenant en compte ce que les autres ont fait sur le continent. Et le plus gros défi, quand on parle de cinéma, malheureusement, c'est, voilà, on fait tout ce travail, on a des recommandations qui ressortent, mais le suivi et l'évaluation posent problème. Ce n'est pas nous, mais c'est une question malheureusement de volonté politique, parce que c'est quoi la next step, comme on dit? Nous, on le fait, on travaille depuis des années, mais la prochaine étape, voilà. Donc ça stagne. Donc c'est complexe un peu.
Parce que ce que tu dis en ce moment est tellement important. Il y a 2-3 semaines, nous avons reçu dans cette rubrique Onde de Culture un réalisateur malien, Ngolo Diarra, qui nous parlait justement des difficultés qu'ont les acteurs du milieu cinématographique en Afrique à produire et à réaliser leur projet. Et je pense que vous vous rejoignez quelque part, parce que vous aussi au Tchad, vous vous retrouvez dans les mêmes conditions. Mais finalement, la solution, c'est quoi aujourd'hui?
Les réalités sont les mêmes, je pense, sur tout le continent, mais il y a des pays qui sont des pays d'exemple. Moi, je donnerai toujours l'exemple du Sénégal et enfin aussi du Maroc, parce que c'est les pays où j'ai eu plus à travailler aussi avec eux, dans le sens où je faisais appel à ces modèles-là, je dirais, pour nous appuyer. Et les problèmes sont les mêmes. Comme je vous l'ai dit, des fois, il n'y a pas de politique culturelle, enfin, pas de politique de cinéma, il n'y a pas de fonds, c'est les mêmes, il n'y a pas de valorisation. Même les voyages, je vous assure que pour pouvoir aider un jeune qui a un film, enfin, déjà, on a du mal à produire, mais quand vous produisez pour l'exporter, c'est un problème. Alors, c'est tellement difficile. Après, vous me direz, vous vous imaginez comment faire pour trouver un visa pour qu'un jeune puisse venir, que ce soit en France ou que ce soit au Canada? Déjà, ça, c'est un problème. Déjà, même pour qu'il puisse avoir son propre passeport pour voyager. Il y a tellement, la question de la mobilité est à mettre sur la table, la question du financement, les problèmes sont énormes.
La distribution aussi, apparemment, on parlait aussi de la distribution pour ce problème.
Nous, on a, par exemple, pour le Tchad, on a une seule salle de cinéma qui a fait tellement... qui était la seule aux normes, franchement, mais incroyable,
surtout.
Malheureusement, cette salle, elle a fermé ses portes. Cette salle, elle a fermé ses portes et elle a servi récemment dans les campagnes présidentielles d'une salle qui a fait plutôt une salle de politique et de campagne, ce qui est quand même déplorable et dommage parce que c'était quand même une salle aux normes internationales qui faisait la fierté. En tout cas, c'était notre joyau dans le Sahel. Et ça, c'est dommage. Alors, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes-là ou parer à ces éventualités? Les pistes de solutions viendront d'abord des acteurs culturels, des promoteurs culturels eux-mêmes, qui doivent travailler avec ceux qui ont les moyens et les capacités de les faire. Je vais dire quelque chose en l'assumant totalement. Moi, j'ai 35 ans. Ça fait, encore une fois, je suis née, j'ai grandi au Tchad. Pendant des années, c'est en 2014, quand j'ai commencé moi-même à rentrer dans le cinéma, que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me passionne. Je suis sociologue à la base, c'est quelque chose qui me passionne. Je veux en faire... aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si je vais dire je vais en faire un métier pour pouvoir gagner ma vie. Si j'étais au Tchad, j'étais encore hésitante, parce que ce n'est pas forcément, ça, la réalité. Mais je le dis, pourquoi ? Parce que... En faisant le festival, je me suis rendu compte que j'ai pu faire avec très peu de moyens ce que beaucoup auraient pu faire avec beaucoup d'argent depuis plus de, 20 ou 30 ans. Et donc, je me dis que là, c'est une question de volonté. C'est tout simplement une question de volonté. Un, c'est la volonté, qu'elle soit politique ou autre. Et deuxièmement, c'est aussi une question de volonté aussi de vouloir voir les œuvres de son pays. Aujourd'hui, on a plein de jeunes qui veulent voir des films, qui veulent voir des histoires qui parlent. Qui leur parle. Ce serait difficile pour moi de vendre à un jeune Tchadien ou un jeune Africain un film qui ne lui parle pas, tout simplement. Et cette volonté-là, si par exemple aujourd'hui l'État ne veut pas forcément suivre, ça va être difficile. Donc ce sera à nous aussi de faire des plaidoyers avec d'autres partenaires qui sont plus regardants, qui sont plus à l'écoute. Moi je vous dis, et depuis que j'ai commencé à travailler sur les festivals, ceux qui m'ont en priorité accompagné, et je l'ai dit haut et fort, c'est les Suisses. Donc, c'est les Suisses qui nous ont accompagnés, en tout cas dans notre lycée, pendant les 3 éditions. Et donc, ça, c'est important, c'est quelque chose qu'il faudrait valoriser. Effectivement, j'ai eu aussi la France, mais ceux qui nous ont le plus soutenus, ce sont les Suisses. Alors, il y a
bientôt le Canada, bientôt le Québec.
pour la petite histoire, moi j'étais en compétition officielle. Pour ceux qui nous écoutent, on est là, il faudrait le faire. Mais encore une fois, la question, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. On a vu les modèles de cinéma, enfin les modèles d'émancipation et d'évolution économique, etc., du cinéma. Prenons l'exemple du Nigeria. ils sont en train de le faire. Et eux, c'est pas. Une fois, j'étais allée, je pense, au Sénégal et ils parlaient de cela. Ils disaient, mais avec beaucoup de fierté, mais nous, on le fait. Nous, on n'a pas attendu que l'État nous accompagne pour le faire. Après, je me dis, bon, c'est quoi la recette miracle? Parce que, bon, nous encore. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y en a qui attendent beaucoup de leur État. C'est aussi une certaine responsabilité et l'État est redevable vis-à-vis des acteurs culturels aussi et de la population de pouvoir faire les choses, de construire des infrastructures qui puissent permettre la création, permettre à la création, la diffusion des œuvres, la distribution, tout ce que vous voulez. C'est aussi à des acteurs culturels eux-mêmes de pouvoir faire cela. Aujourd'hui, je ne sais pas, nos hommes d'affaires, j'aimerais bien les voir investir dans des salles de spectacle, dans des salles de cinéma, mais on ne veut pas le faire. Après, il ne faut pas oublier, dans le cas du Tchad, il y a aussi les réalités sociales qui sont là, qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc voilà, donc, il y a tellement de choses à faire, mais le mot, c'est la réalité, la volonté.
La volonté, mettre les moyens, aider ceux-là qui ont des projets, des idées pour le cinéma en Afrique. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est la troisième fois que je parle de cinéma, de film africain dans cette rubrique. On en a parlé lors du Festival de Saint-Louis, Festival documentaire de Saint-Louis. Tout dernièrement, j'ai parlé du film documentaire L'héritage de N'Golo Diarra, le Malien. Et puis là, aujourd'hui, donc, on a un membre du jury qui est au Festival Vue d'Afrique, qui nous vient du Tchad. Et c'est pour moi encore un grand plaisir de parler du cinéma africain. Super plaidoyer, Hatché. On espère que ça va, justement, tu parlais de next step, de la prochaine étape, ça va aider pour tes prochains projets. Justement, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir dans les mois, jours à venir? On sait que la pandémie freine pas mal de projets là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans la gibecière, dans les casseroles, je sais pas moi où c'est là, quelque chose qui se prépare avec Hatché pour les mois à venir?
Dans les casseroles, oui, mais tu l'as si bien dit. La pandémie liée à la COVID a bloqué tout le monde. C'est extrêmement compliqué. Je me retrouve un peu dans des difficultés comme tout le monde, hein, de pouvoir vraiment pouvoir faire les choses, que ce soit en termes de tournage, en termes de réa ou même de création. Je posais justement la question à des confrères, des amis, en disant mais comment vous arrivez-vous à être inspiré en ce moment alors que voilà c'est difficile même entre quatre murs de pouvoir sortir quelque chose. Mais quand même, pour le moment, je suis sur un projet, comme je l'ai dit, de série télé. Et donc, je suis extrêmement fière. Donc,
c'est utile, si c'est pas industriel.
Non, ce sera...
Hatché, s'il te plaît.
On est encore dessus. Mais par contre...
Mais j'ai tenté pour les auditeurs.
Oui,
j'ai tenté.
Oui. Mais j'en parlerai, mais quand même ma plus grande fierté depuis mars, c'est cette start-up culturelle et créative que j'ai lancée ici à Paris, qui s'appelle Kaleuscope Entertainment et qui est une start-up qui promeut notamment la culture tchadienne et en particulier en général l'Afrique à travers un lab, à travers des formations académiques, surtout de la production, donc à travers les web télé, web radio et puis la presse en ligne. Donc on va bientôt lancer la web radio aussi. Donc voilà, on est dessus. Donner le monde à ce que les gens puissent découvrir la musique de chez nous, surtout la musique des chez nous. Encore une fois, que ce soit pour le cinéma, et vous voyez, c'est toute la chaîne. Quand on fait un film, on met quoi? On a les comédiens, on a de la musique et tout, mais tout ça, on véhicule une culture, on véhicule toute une culture, non pas que la culture du Tchad, mais la culture de notre continent. Et comment on fait pour l'exporter? Dans le cas de mon pays, on a du mal à se faire, à exporter cela. Et il y a du talent. Et c'est ça qu'on souhaite valoriser et montrer.
Là, tu viens de m'étendre encore une fois la perche parce que tu parles de talent. Je vais tenter cette question-là. Oui. Membre du jury au Festival Vieux d'Afrique, ici au Québec, à Montréal plus précisément. Est-ce que parmi les 21 de films qu'on a regardés, il y a des films qui nous ont marqués, qui ont attiré votre attention? Disons, je parle de jury ou bien de toi particulièrement.
Pour être tout à fait honnête, l'humain me pousse à dire que tous les films sont beaux. Parce que chaque par essence, chaque réalisateur, chaque artiste, quand il vient faire quelque chose, c'est parce qu'il a été passionné et c'est parce que ça lui a parlé et qu'il veut parler de quelque chose, qu'il met en place une œuvre, une action, ou qu'il peint ou qu'il réalise un film. Donc maintenant, c'est relatif. Chacun apprécie quelque chose en fonction d'une certaine subtilité, d'un message qui est passé. Et c'est de là, bah justement, oui, il y a des films qui peuvent toucher plus que d'autres. Cela ne veut pas du tout dire que tous les films ne sont pas bons ou que parce qu'on en a pris un, bah c'est juste que voilà, il faudrait choisir. Et en tout cas, tous les films sont poignants. Et encore une fois, il y en a qui ont été très subtils, très touchants, très éloquents et qui abordent fidèlement certaines thématiques de l'heure.
Justement, je sais que c'est un peu plus difficile, tu es membre du jury, jusque-là, tu ne peux pas te prononcer exactement par rapport aux films qui ont été sélectionnés au festival, mais on veut quand même savoir quels sont les thèmes qui sont revenus, qu'on a pu regarder pendant le festival, quels sont les thèmes qui sont plus revenus, voilà, dans les différents projets.
Ce sont les thèmes des sociétés, hein. Ce sont les thèmes des sociétés, justement. Tu vois, Vianney, tu veux me faire parler, hein, comme on dit là. Tu veux manger ton piment dans ma bouche, là. Hein,
bon, hein, ok, hein, j'ai tenté,
on
là.
On va, hein, tu vois, tu as tenté. Il faut faire gaffe. Ouais, ouais. Mais ce sont des thèmes des sociétés. Et justement, aujourd'hui, c'est ça, c'est de ça dont on a besoin et c'est très important. Bon, tu as vu les films, mais j'inviterai à voir.
Les thèmes de société sur l'Afrique, ouais.
Oui, c'est tout ce que vous avez vu dans les programmations. Et franchement, encore une fois, il faudrait repartir voir tous ces films-là. Ces films méritent vraiment d'être vus, revus et partagés. Et partagés surtout.
Vus, revus et partagés. Ben, écoutez, merci à toi, Marché, d'avoir partagé avec nous un peu ce que, d'abord, tu sais, à propos du cinéma africain. Et puis, tu as partagé avec nous les difficultés du cinéma tchadien. On espère vraiment, comme tu l'as dit, qu'il y aura de la volonté, que les gens vont mettre les moyens, volonté politique et économique pour que le cinéma africain, le cinéma tchadien puisse aller de l'avant. Merci, Haché. Ce n'est pas le dernier rendez-vous. On va se retrouver très, très bientôt parce que je reviens encore une fois de plus sur ton actualité. Il y a un projet qui se prépare, série télé, et nous reviendrons là-dessus pour pouvoir parler de tout ça au moment opportun, peut-être d'ici 2-3 mois, 6 mois.
D'ici 2-3 ans, peut-être.
D'ici 2-3 ans.
Oui. Inch'Allah. À moins que je vienne avec d'autres projets, il y en a plein et on viendra. Et puis peut-être, qui sait, on se verra à Montréal une fois qu'on aura été vacciné et que toute cette pandémie sera derrière nous. En tout cas, merci à toute votre équipe. Hein.
Ou N'Djamena. Ou N'Djamena,
ben, oui, ma capitale.
On va revisiter Carnivore. On va revisiter Carnivore.
Alors, Carnivore, chers auditeurs, c'est le restaurant apparemment N'Djamena par excellence. Hein, on peut pas venir N'Djamena sans parler de ça. Ça se voit que tu connais bien le Tchad.
Ben, je connais N'Djamena. C'est un joli, vraiment très beau capital. Et puis, très beau pays qui est le Tchad. J'ai été à Béché. J'ai été à Gosbeïda. J'ai vu N'Djamena. J'ai visité N'Djamena. 2 ans au Tchad. Eh ben, je suis ravi de parler encore une fois de plus avec une Tchadienne, comme on dit, de souche, et surtout de me rappeler quelques souvenirs de ce beau pays qui est le Tchad.
Tu as été au Canem?
Bien sûr.
Je suis du Canem.
Oh yo. Écoutez, merci beaucoup.
Bah, merci infiniment.
Merci à toi, merci chers auditeurs. Merci Mbaï. Voilà, c'est fini pour nous aujourd'hui. C'était Onde de Culture, présenté par Vianney Lusumbi. Et l'invité, c'était Haché Hamad Mustapha, réalisatrice, productrice tchadien, qui nous a parlé du cinéma tchadien et qui était aussi membre du jury au festival Vue d'Afrique. Merci.
Au revoir. Merci.
Grand merci à Vianney et à Haché Mustapha. À vous, chers auditeurs, c'est la fin de ce magazine. Prochain rendez-vous lundi avec Mbaï. Quant à moi, Magloire Mpembi, je vous retrouverai très bientôt sur les ondes. Et comme le dit souvent l'ami Mbaï, d'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Ciao.
survivante de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés.
Vaccination against COVID-19 is ongoing throughout Quebec. The combined effect of two doses ensures better efficacy of the vaccine, reducing the risk of getting and transmitting the virus. You'll also stay protected for a longer period of time. Coming to your appointment for the second dose of the vaccine is a must, whatever else is on your schedule. The second dose of vaccine is essential. A message from the Gouvernement du Québec.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised. Hey everyone, on today's show, I sat down with two friends who are both chronically ill and disabled, queer writers and artists living in Montreal or formerly living in Montreal, MX Marin and Celie Quest. We talked a lot about the pandemic and kind of what it meant to be someone who is chronically ill or disabled, living and watching the reality of the world react to pandemic life. They also shared some of their work. We mused about dreams. It's a really great episode, so thank you for tuning in. You're